Humanoïde dans la science-fiction avec un panel de choix. Je vais commencer à ma gauche par Rodolphe Gélin qui a travaillé 10 ans pour le CA en tant que spécialiste de robotique où il a travaillé donc sur la commande de robots mobiles pour des applications industrielles, aussi de nettoyage, d'aide aux personnes âgées. Qui a dirigé un service cognitique, robotique et interaction et qui depuis 2009 travaille pour Aldebaran Robotics à la tête du projet Romeo qui développe donc un robot humanoïde de taille humaine. Il est seul ?
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant.
Très malheureux.
Christophe Lambert, auteur bien connu, prolifique, dont je vais citer certains hommes, notamment La Nuit des Mutants, Prix Ozone en 1998, Souviens-toi à l'amour, un western uchronique, Les Chroniques d'Arcadie, La fille de mes rêves en 2011, et particulièrement en lien avec notre thème aujourd'hui, Clone Connexion et Petit Frère. Laurent Doc Genefort, qui est là-bas, auteur d'une thèse de doctorat sur les livres univers, qui lui-même a peuplé ses univers, notamment dans Omal, Prix Ronny Aîné en 2002 et Les Conquérants d'Omal, et qui a travaillé récemment donc, sur un univers de jeux vidéo, From Dust. Et enfin, Thomas Day, dont on pourrait citer des recueils de cette année, comme Sympathies for the Devil, Women in Chains, prix Julia Verlanger en 2003 pour La Voix du Sabre, et qui vient ici, notamment avec son dernier roman, Du sel sous les paupières, et qui est toujours, au-delà de son activité d'auteur, directeur de la collection Lune d'encre. Donc, les robots et les humanoïdes sont un des thèmes presque définitoires de la science-fiction. Si on demande à un public, on va dire, de non-initiés, un récit de science-fiction, c'est un récit où il y a ou du voyage dans l'espace ou des robots. On a bien précisé robots et humanoïdes, puisque le fait que ces êtres soient ou mécaniques ou synthétiques ne change pas forcément grand-chose dans l'approche. Bien sûr, ça change énormément de choses dans le traitement, mais en termes d'héritage littéraire, la figure du robot tire ses racines très très loin dans notre culture. On peut remonter au golem, on peut parler des automates, on peut de Vaucanson ou autre. Après, effectivement, on va avoir des variations sur les formes et les implications selon les périodes auxquelles les livres sont écrits et selon, évidemment, le paradigme scientifique qui permet d'en asseoir la plausibilité. Donc, si on sait qu'un des premiers textes sur un être artificiel complet a été rédigé par un humaniste qui venait simplement d'observer un œil de verre, on va avoir énormément de récits qui vont faire correspondre la technologie d'être artificiel à ce qui justement est plausible à une époque donnée. Donc on va passer effectivement de conceptions mécaniques horlogères à des conceptions beaucoup plus machinistes qu'on va pouvoir avoir au début du siècle quand Capech définit le terme robot, hein, qui sont des travailleurs esclaves mécaniques qui vont évidemment se rebeller contre leur créateur inconscient. Et au fur et à mesure, on va avancer dans le siècle, on va avoir des redéfinitions de ces robots qui vont être des êtres ensuite synthétiques ou des êtres clonés. L'idée fondamentale qu'on a dans ces différentes œuvres, c'est donc l'idée effectivement d'avoir des êtres artificiels créés par l'homme, par la science et la technique pour les servir. Avec tous les problèmes que cela peut soulever, évidemment des problèmes philosophiques sur notre propre origine et notre rapport à notre créateur, ou les implications sociales et politiques de la création effectivement d'une sous-classe d'êtres. Et les gens qui sont autour de moi, en tout cas trois d'entre eux, ont exploré différentes modalités hein, des implications de la création d'êtres artificiels dans les sociétés, qu'elles soient contemporaines ou dans le futur. Mais comme j'aime relativement le faire et le dire de temps en temps, j'ai à côté de moi une personne qui sait à peu près exactement là où on est aujourd'hui, vu qu'il développe très concrètement à notre époque un robot humanoïde de taille humaine. Et j'ai envie de lui dire, bon, quand est-ce que chez moi... Il se trouve que personnellement, ça c'est un avis que je n'ai pas inventé tout seul, je pense que la robotique aujourd'hui, c'est exactement l'informatique dans les années 80. C'est quelque chose qui est chez quelques personnes que le public en général qui n'est pas encore touché par le phénomène de la micro-informatique au moment des années 80 se demande à quoi ça peut bien servir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ordinateur et d'un écran pour traiter du texte, pour faire des calculs? Aujourd'hui, la robotique en est au même point. On a depuis un ou deux ans les premières applications commerciales grand public qui commencent à décoller. Hein, les ventes de robots aspirateurs, tout simplement domestiques, commencent à décoller alors qu'ils existent depuis déjà plusieurs années. Et personnellement, c'est mon postulat, je pense que dans 20 ans, on aura tous un chez nous. Et quand je dis un, au moins un. Et s'il y a une application, mais là je vais laisser la parole à quelqu'un qui sait réellement de quoi il parle, et il parle de moi donc, il y a un gros problème au robot domestique, c'est que, et hein, c'est un problème qu'a le robot aspirateur actuellement, hein, vous voyez, cette espèce de disque de sol, c'est que si on crée des robots de cette manière-là, on est obligé d'adapter tout notre environnement à des robots. Alors ça, c'est quelque chose qui est, quand on voit juste la difficulté qu'on a à adapter des bâtiments publics aux normes handicapées, c'est vrai que pour laisser tout le monde effectivement accéder à des bâtiments, on se dit que ce n'est pas demain qu'on va massivement décider d'adapter nos intérieurs et notre environnement à des robots. Donc il est évident que la solution, en tout cas en termes pratiques, c'est d'avoir un robot qui lui-même s'adapte à notre environnement. Et donc je me tourne tout de suite vers la personne qui sait dans combien de temps est-ce que j'ai un robot qui va enfin pouvoir venir chez moi faire toutes les choses que je n'ai pas envie de faire. Et comment est-ce que je suis sûr qu'il y a un moment il ne va pas me virer de chez moi parce que franchement je suis trop mauvais.
Mais vous êtes très bien, donc il ne vous virera pas. Et vous savez déjà plein de choses sur les robots. Donc dans combien de temps des robots... Alors un robot humanoïde, moi j'espère bien qu'il ne faudra pas attendre 20 ans pour avoir des robots humanoïdes chez nous. Aujourd'hui, nous, on en a déjà en magasin, si je puis dire, le robot Nao, qui n'a pas la taille humaine et donc qui ne peut pas faire tout ce que vous avez envie qu'il fasse. Moi, je ne sais pas, c'est chacun aussi. Une des grosses difficultés qu'on a, nous, qui fabriquons des robots, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec nos robots. Et alors on a tout de suite quelques réflexions. Je veux qu'il aille me chercher une bière, je veux qu'il repasse, je veux qu'il passe l'aspirateur. Donc, nous, prenons bonne note de ça. Et donc, en fonction de ce que vous demandez, je peux vous dire ça, c'est l'année prochaine, ou ça, c'est dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc dans 20 ans, c'est sûr, vous avez raison, dans 20 ans, on aura tous des robots chez nous. Bien avant, j'espère qu'on sera très nombreux à avoir des petits robots chez nous. Et ce qui va faire que le robot va grandir et va devenir de plus en plus efficace, eh bien, c'est l'analyse des besoins, les progrès de la science, les progrès de la technique. Et donc, voilà, notre vision à nous, c'est que vous commencerez par avoir des petits robots comme Nao, qui ne font pas grand-chose, qui sont des compagnons. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que vos besoins se préciseront, que vous serez habitué, alors vous êtes un vrai fan de robots, donc tout de suite vous embrouillez chez vous, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont un peu dubitatifs et qui se disent oui, à quoi ça sert, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça ne va pas me virer de chez moi. Mettons d'abord des petits robots qui sont rassurants, qui vont rendre des services du quotidien, des services cognitifs, des connexions au reste du monde numérique. Des robots qui ne sont pas chers, mais qui ne font pas grand-chose. Comme l'aspirateur, il n'est pas cher, mais il fait juste une tâche, mais très bien. Voilà, donc on va arriver par là, voir d'ici moins de 10 ans, 5 ans, entre 3 et 5 ans, on pourra avoir des petits robots chez nous qui ne feront pas grand-chose, qui seront des compagnons avec qui on s'habituera à vivre. Et puis d'ici 10, 15 ans, ils vont grandir et rendre de plus en plus de services.
C'est donc demain.
À notre échelle, c'est demain.
Ça fait plaisir, parce que j'en ai franchement assez de faire pas de tâches ménagères, et puis je pense à tous les célibataires qui, eux aussi, ont envie d'avoir un robot. Pour moi, les deux applications qui vont être plus grandes, il y en a une qui a été définie par Philippe Cadic dans le Quai de Bourdieu, où on a justement des gens où l'intrigue, en fait, c'est de créer des automates, et où au début, ils n'ont pas d'idée d'application, donc ils décident de recréer des personnages historiques, notamment ils recréent Stimson, ils recréent Lincoln, et finalement, c'est un des androïdes qui a l'application qu'il faut pour en vendre plein, c'est de faire des nourrices. Le babysitting et la nourrice, c'est l'application qui tue du robot. Évidemment, la deuxième, c'est le robot compagnon intime, le robot sextoy, dont Philippe aura certainement 3-4 versions en magasin. J'ai envie de me tourner vers les auteurs de science-fiction qui sont actuellement en activité. L'image principale du robot en science-fiction, c'est évidemment l'image d'Asimov. On passe au début du siècle, on va dire, avant l'âge d'or, on a, majoritairement, c'est peut-être une énorme erreur, mais l'image la plus prégnante, c'est celle du robot comme métaphore de l'esclave. C'est comme ça qu'ils sont définis par Capège dans sa pièce. Au départ, c'est exactement la vision qu'on va avoir qui correspond exactement à ce qu'on a dans Métropolis. À ce niveau-là, le fait que l'être soit mécanique ou pas est avant tout métaphorique. On passe un cran évidemment fondateur,
le terme est choisi,
avec Asimov, avec donc, le robot, et cette idée assez géniale est exploitée énormément depuis les trois lois de la robotique, pour essayer de nous protéger du truc évident, qu'ils prennent notre place. Et j'ai envie de me tourner vers vous pour savoir, eh bien voilà, maintenant qu'on a posé ces jalons, où en sont vos robots aujourd'hui? Sachant que, comme je disais, je ne m'arrête pas aux robots. Est-ce que vous faites d'une part une différence fondamentale quand vous écrivez ou quand vous pensez à un univers entre différents types d'êtres artificiels, entre un robot, entre un clone, entre un être synthétique? Et aujourd'hui, comment vous portez cet héritage? Est-ce que vous concevez un avenir avec des robots? Quel rôle jouent-ils? Est-ce que ce sont des éléments de décor? Est-ce qu'ils sont centraux dans vos intrigues?
Je prends la parole de bref parce que j'ai le moins de choses à dire dessus, parce que je suis essentiellement un auteur de space opéra et j'ai assez peu peuplé mon espace de robots que je trouve quand même cher à produire. alors que un travailleur, il suffit de deux personnes non qualifiées de sexe opposé pour fabriquer un nouveau travailleur. Donc ma logique, elle était plutôt économique. Et je n'entraide pas, mais ils apparaissent de façon plutôt incidente. Par exemple, dans les peaux épaisses, où je décris des postes humains qui ont été créés pour travailler dans l'espace et pour vivre dans l'espace, donc c'est un modèle d'espace, ils se font. Ils deviennent obsolètes parce qu'on a trouvé moins cher, en fait, justement, avec les machines. Et du coup, ils se retrouvent un peu comme des SDF au large des stations. Mais finalement, ça s'arrête à peu près là. Ma logique, elle est, je veux dire, purement économique. Et dans l'univers que j'ai décrit, ça revient moins cher de fabriquer de l'humain que de fabriquer du robot.
Il n'y a pas de charge sociale dans votre univers.
Non, tout à fait. On est dans un monde ultra libéral à l'échelle galactique.
Mais d'ailleurs, c'est une remarque qui est souvent faite, notamment sur l'idée d'avoir des robots. Forcément, les robots sont en train de changer, mais notamment l'idée d'avoir des clones, de cloner des gens pour avoir des armées, où en général, il est assez simple d'expliquer que ça vaut beaucoup moins cher, effectivement, de prendre des vrais êtres auxquels on n'accorde pas de valeur dans le système, mais des envoyer.
Je trouve que c'est le premier thème hautement politique de la science-fiction depuis le début. Comme tu le disais, l'histoire du robot, c'est l'histoire d'un peuple, en fait. On voit l'évolution. C'est devenu d'abord, on a créé des gamètes, enfin, des automates. Après, on crée des armées de robots, donc un peuple de robots qui s'éveillent à la conscience, qui se rebellent, qui tuent leur créateur. Là, c'est marrant de voir que dans la pièce de Karel Čapek, il y a. En fait, c'est des androïdes, en réalité. Ce ne sont pas des robots, même s'ils parlent de robots, en réalité, c'est la chair nouvelle. Donc, ce sont des androïdes, comme dans Blade Runner. Et pour les empêcher, justement, on leur crée un code moral, qui fabrique du citoyen. Et après, ils peuvent. Ils ont suivi les évolutions de la société. C'est assez marrant. Donc, on est purement dans la politique quand on parle de robots, en fait.
Moi j'adore les robots, donc il y en a beaucoup dans le livre. Dans l'automate de Nuremberg, c'est l'histoire d'un petit robot automate joueur d'échecs, qui fait 70 cm de haut et qui sait juste jouer aux échecs, qui parle pas, donc il écrit des mots sur des cartes pour communiquer. Tu sais, ce que Pierre, dans le dernier roman, c'est un robot espion allemand 1920 inventé par un certain Dr Lang, et donc on est vraiment dans l'imaginaire européen des années 20, des années 10, des années 30, expressionnistes allemands, etc. Dans mon space opéra Daemon, il y a une super guerrière, Robert Friedrich, qui a renoncé à son humanité pour devenir un robot de combat parfait. Elle est devenue une arme à tout point de vue, elle a des lames dans les bras qui peuvent sortir, même son vagin est une lame, est une arme. Et c'est vrai que moi, la figure du robot, de l'automate, c'est un truc qui me fascine et j'aime bien les deux choses. J'aime bien les petits robots de 70 cm qui sont en cuivre et qui peuvent faire pas grand chose. Et j'adore les IA qui sont les intelligences artificielles, qui sont devenues maîtres du réseau et qui sont partout et qui ont en fait quelque part remplacé l'humanité ou du moins qui sont devenues le plus haut échelon sur la chaîne alimentaire.
Alors, la robotique. On ne peut pas dire que ce soit le fer de lance de ma production. J'ai fait une quarantaine de romans et de nouvelles. Et si je me souviens bien, il y a un petit robot dans un roman qui s'appelle Meurtre à 30 000 km par seconde, qui est le compagnon de l'héroïne. C'est un roman jeunesse. On a une adolescente qui est dans un vaisseau spatial qui navigue au long cours avec ses parents, donc elle est toute seule. Et le robot, c'est le confident, c'est le robot de compagnie. J'imaginais un peu. Volant au-dessus du sol, comme les petits personnages du film Le Trou Noir, pour ceux qui sont de ma génération, ça remonte déjà au début des années 80. Et à la fin de ce roman, le robot meurt, si toutefois on peut employer ce terme pour un robot. Enfin, il est vraiment en très piteux état et on ne peut pas le réparer. Et quand mes filles ont lu ce livre, elles se sont effondrées en larmes et J'ai donc dû écrire une nouvelle pour ressusciter le robot, pour faire plaisir à ma fille. Une nouvelle qui n'est pas sortie, mais qui est dans le tiroir. Une autre chose, alors là, on sort du robot pur et dur pour partir dans le domaine de la domotique. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Entre petits frères » pour le magazine Délire. En fait, le point de départ, c'était que je venais d'aller voir au cinéma le remake de Amityville, La maison du diable, de Stuart Rosenberg, un film qui est sorti il y a 5 ou 6 ans. Et en sort, le film est très mauvais, mais en sortant du cinéma, je me suis dit, si on transposait en science-fiction le thème de la maison hantée, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et là, j'ai switché sur la domotique. Donc, dans Entre petits frères, nous avons un couple qui est à la pointe de la domotique avec une intelligence artificielle qui gère tout le fonctionnement de la maison, qui est un peu leur enfant chéri, jusqu'au moment où ils adoptent, ils ne peuvent pas avoir d'enfant, mais ils adoptent un petit garçon en Asie, en Chine, je crois. Donc ils ramènent le gamin à la maison, et l'intelligence artificielle va devenir jalouse du gamin et essayer de zigouiller le gamin. Et là, ma source d'inspiration, c'était un film que j'avais vu dans les années 70, dans une émission qui s'appelait L'Avenir du Futur, un film qui s'appelle en français Génération Proteus. Je ne sais plus quel est le titre.
Demon Seed
avec Julie Christine.
C'est génial.
Qui est un très beau film, avec une fin tantinée grand guignolesque, si ma mémoire est bonne, mais 95% du film est vraiment, vraiment excellent. Donc voilà mes rares incursions dans le domaine de la robotique. Je peux parler du clonage tout de suite si tu veux, sinon on peut continuer.
Je crois que Laurent avait une remarque, mais après.
Non, et puis juste avant, il y avait eu un épisode de Château Mieux, Botte de Cuir, avec Diane Larry, un épisode en noir et blanc, qui s'appelait, je crois, la maison diabolique, qui raconte justement une maison robotique qui a été programmée par un savant génial et qui a été tué par Diane Harry, par Mrs. Spill. Et donc c'est la maison qui va se charger de le venger post-mortem. Et c'est une maison piégée, mais pure maison robotique en fait, mais en version piège.
Il y a une variation géniale là-dessus dans iRobot. J'aime beaucoup iRobot, le film, avec effectivement la maison qui est connectée, donc on a tous les paradigmes actuels, on a la maison en réseau, on a tout le jeu domotique, et effectivement avec cette idée que la maison elle-même est totalement en réseau avec l'intelligence artificielle qui est en train de se rebeller en poussant à l'absurde en fait, enfin, en poussant à la logique, et avec l'idée en fait qu'elle peut programmer, et c'est en fait quand le policier arrive dedans qu'il décide de déclencher la destruction de la maison, c'est un autre robot qui est derrière, et qui commence à détruire la maison, mais méthodiquement, en essayant de l'avoir, mais bon, il en faut plus que ça pour tuer un héros dans un film américain, mais il s'en sort. Et je vais en revenir sur le clonage, justement, bah oui, parce que Bertrand Tavissel m'arrête. Est-ce que, pourquoi déjà ce choix ? Pourquoi ce choix ?
Le clonage, j'ai commencé à m'y intéresser d'un point de vue dramatique, pour créer des histoires. Quand mon ex-compagne était enceinte, elle attendait des jumelles. Donc j'ai commencé à me questionner sur l'inné, l'acquis. J'allais avoir à la maison deux personnes qui allaient vraisemblablement avoir un capital génétique assez proche. Alors est-ce que l'environnement, comment leur personnalité allait-elle se forger ? Est-ce que l'environnement aurait beaucoup d'influence ? Ou est-ce que les cartes génétiques qu'on nous donne au départ conditionnent beaucoup de choses ? Bon, c'est très imbriqué, j'ai pas de réponse définitive sur la question, mais ça m'intéressait. Et à partir de là, j'ai eu l'idée d'un roman qui s'appelle Petit Frère. Rien à voir avec Entre Petit Frère. Petit Frère, ça parle d'une famille qui perd un enfant. Dans le premier chapitre, le gamin se noie dans une piscine. Et nos héros sont bien sûr complètement bouleversés, endeuillés, etc. Ils vont rencontrer des gens qui ont l'air au premier abord très sympathiques, mais qui sont en fait des membres d'une secte, qui vont leur faire miroiter une soi-disant résurrection du gamin grâce à un échantillon de sang qui avait été prélevé aux urgences. Ils vont fabriquer un clone grâce à un processus de croissance accélérée dans une cuve, machin truc. Ils vont récupérer le gamin à 10 ans, c'est-à-dire à l'âge où il avait décédé. Et là où les membres de la secte sont assez pervers. Quand les parents disent bon, on va récupérer cet enfant qui va être le sosie parfait de notre enfant, mais il n'aura pas les mêmes souvenirs. Et là, la personne qui est en face d'eux leur dit « Oui, mais imaginez que votre fils ait eu un accident de skateboard et que son front ait heurté un trottoir, il aurait pu devenir amnésique aussi. Est-ce que vous ne l'auriez pas aimé pourtant de la même manière ?» Et les parents qui sont, on comprend, complètement tourneboulés par le drame qu'ils viennent de vivre, se laissent embarquer dans l'aventure avec cette secte, récupèrent un petit garçon qui, au début, sert de roue de secours, en fait, puisqu'il remplace celui qui est mort. Et petit à petit, comme il n'a pas le même passé, donc il n'a pas pour cause les mêmes souvenirs, on va se rendre compte qu'il n'a pas la même personnalité. Au fur et à mesure du récit, il va développer sa propre personnalité et être accepté pour en tant que tel, comme un individu à part entière. En plus de ça, il y a une intrigue thriller qui se met en place avec le piège de la secte qui se referme sur les personnages. Mais voilà, le point de départ de l'idée, c'était ça. Quelle est la part de l'inné, quelle est la part de l'acquis, quelle est la part de déterminisme, quelle est la part de chaos. Ça, c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent. Et même quand j'écris des histoires de voyage dans le temps aussi, c'est un thème qui revient d'une manière différente. Est-ce qu'il y a des grands courants souterrains, historiques, sociologiques, qui programment l'histoire, ou est-ce qu'on peut... est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut changer les choses, hein, si on tuait Hitler, est-ce qu'il y aurait eu le troisième Reich? Si on tuait Hitler au verso, est-ce qu'il y aurait eu la déportation, etc. Donc, appliqué à la génétique et à l'humain, ça donne l'inné et l'acquis. Et pour ça, le clonage est un moyen très commode d'explorer ce thème. Et donc, l'autre connexion, c'est un peu différent. Là, c'était le clonage social. On est dans une société, une entreprise où le héros... Et avec ses collègues à la machine à café, tout le monde est fringué pareil, tout le monde a les mêmes expressions, tout le monde écoute la même musique, quand ils vont le soir au resto et en boîte, ils vont dans les mêmes endroits. Donc là, c'était comment est-ce qu'on déteint dans le corps social, comment est-ce qu'on déteint les uns sur les autres. Et au bout d'un moment, le héros, il y a une ambiance, une intrigue un peu thriller, paranoïaque, il se demande est-ce que je suis entouré de clones, est-ce que je suis moi-même un clone, ou est-ce que c'est juste le clonage social lambda que je peux en avoir. Les deux approches du clonage. Il y en a une troisième, après je vous laisse. Là, c'est pour un roman pour les tout petits, enfin l'école primaire. J'ai trouvé le titre en une seconde. Ça s'appelle Papa, Maman, mon clone et moi. Et après, j'ai mis 6 mois pour trouver l'intrigue. Voilà, j'avais le titre et je voulais trouver l'intrigue. Après, j'étais nagé un jour à la piscine et en faisant des longueurs dans la piscine, j'ai mis l'intrigue. Là, c'est un gamin qui a son double, son clone, dans la cave de la maison, dans un truc de congélation. Le programme s'appelle Sécurité Enfant Plus, donc c'est une satire. L'idée, c'est que si jamais votre enfant se fait écraser, vous avez le clone à disposition. C'est un peu le même début, petit frère. Mais là, le clone qui est endormi, a une puce dans son cerveau qui lui permet d'enregistrer en direct toute la journée qu'a vécu son double. Donc l'histoire des souvenirs là n'est pas de mise puisqu'il enregistre en même temps les souvenirs. Et alors le gamin, là on rejoint le thème du robot, puisque le gamin qui en a marre d'aller à l'école, marre de tondre la pelouse chez le voisin, marre d'aller le dimanche chez Tata Jocelyne lui faire la bise, et bien, il décongèle son clone et lui fait faire toutes les tâches qu'il l'embête. Donc là, le clone rejoint le robot puisque c'est le double corvéable à merci. Voilà.
Je sais tout, ouais, la plus pertinente pour continuer.
Il y a une différence quand même. Pardon, je commence pas comme ça. Quand on regarde l'état de la robotique aujourd'hui, que ce soit dans les faits ou dans les œuvres, il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que le pays de la robotique, c'est le Japon. Et forcément, c'est à Thomas que j'ai envie de poser la question, parce que dans ces cas-là, est-ce que ce goût pour les robots, qui n'est pas du tout du même ordre, on sent bien, il y a une vraie jubilation du robot, est-ce que c'est lié à un goût pour cette culture-là, ou est-ce que c'est transmis par cette culture-là?
J'ai l'habitude de dire que le Japon, c'est la seule planète étrangère qui est à notre portée. C'est le seul endroit extraterrestre sur Terre où on peut y aller en 10 heures d'avion. Et je pense que la société japonaise, la société occidentale, c'est différent à des points qu'on peut difficilement comprendre. Et déjà, la notion d'individu au Japon est très très gommée comparée à ce qu'elle peut être en France. Quand vous voyez des Japonais qui viennent en vacances en France, ils restent entre eux, ils ne vous parlent pas. Si vous leur parlez, ils vont se sentir agressés. Et du moins, ils ne vont pas être à l'aise. Je trouve que le Japon, d'abord, c'est un pays qui a été vaincu. C'est un pays qui était fier, très fier, d'un empire, et qui a pris deux bombes atomiques sur la gueule, ce qui est le seul pays au monde où c'est arrivé. Et c'est un pays qui s'est reconstruit de ça dans la technologie, dans l'avancée technologique. Alors d'abord, ils ont copié, et puis comme ils sont quand même très bons, ils sont allés au-delà de la copie, ils ont innové, beaucoup innové, et donc ils ont une culture. Il n'y a pas plus geek que les Japonais, ils sont branchés, les téléphones portables, les horaires du métro sur les écrans, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est fascinant. Je pense que c'est le pays le plus technophile au monde. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Quand vous regardez Tokyo, c'est une vitrine technologique permanente. C'est un pays ordonné, propre. Serviable, poli, l'effort national, l'effort des individus est dirigé dans un sens, parce que pour tout le monde, être marginal au Japon, c'est compliqué, c'est très très compliqué, être étranger au Japon, c'est très compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on reçoit pas tellement, qu'on voit pas tellement en Occident. La société française ne va pas vers l'avant, elle n'est pas d'un seul homme à faire un pas en avant. Quand les Japonais ont la catastrophe de Fukushima, ils vont tous décider, aujourd'hui on n'a pas la climatisation parce qu'elle n'a pas existé, donc c'est journée sans cravate. Donc même le patron, tout le monde enlève sa cravate, le jour à la télévision on enlève sa cravate, et personne, même le patron, ne va pas garder sa cravate. Et puis il faut faire des restrictions d'activité, alors tout le monde va faire des restrictions d'activité, les gens vont pas râler, ils vont pas dire, oh là là, c'est dur de faire des restrictions d'activité, on y va. Et quand il faut diluer la pollution radioactive, et ben on va acheter des produits Fukushima et on va les consommer. Parce que il faut que le pays ne s'arrête pas, il faut que le pays avance. La région Fukushima Daiichi, c'est une grosse région technologique au Japon. Il y a beaucoup d'industries modernes qui ont été touchées. Ils ont eu beaucoup de problèmes de composants électroniques et autres. Ça les a vraiment mis dans une situation difficile. Et ils avancent. Et il y a une espèce de solidarité nationale qui est étonnante. Et alors, elle est un peu presque inhumaine. C'est pas que c'est robotisé, mais ils ont. C'est tellement différent de nous, c'est presque. Il y a quelque chose de vertigineux à les voir avancer, réagir dans leur unité.
Je trouve que ça éclaire énormément, effectivement, ce goût pour le robot. Il y a effectivement cette notion-là. Et ben, on a l'impression, je dirais, qu'effectivement, cette idée même du robot, presque dans des choses qui nous paraissent sombres, hein, comme cette capacité à obéir ou une certaine forme d'uniformité, correspond plus à une projection d'eux-mêmes. Ce à quoi j'ajouterais ce truc fondamental pour comprendre aussi le goût des Japonais pour les robots, qui est le Shinto et qui est le fait que les objets ont une âme.
Oui, voilà, c'est le parle de l'animisme aussi, il y a un côté animiste. C'est tout ça qui disait que le cyberpunk, c'est la technologie qui est passée sous la peau et l'impression qu'il parlait du Japon.
Gibson, en fait, il a vraiment bien compris le Japon, parce que quand on lit Doru, un des concepts les plus étonnants. Entre guillemets, pour moi, avec les Japonais, c'est qu'au Japon, on peut aimer sans se toucher. On peut aimer sans se toucher. Il y a beaucoup de gens qui ont un espèce de recul, de distance, évidemment physique, etc., etc. Ils se retrouvent beaucoup dans les robots, les réseaux. Ça rejoint des craintes sur la chair, sur le corps. C'est très ancré dans la société, beaucoup plus que nous en France. Nous, s'aimer sans se toucher, c'est vraiment anormal.
Et du coup, forcément, je me tourne vers le roboticien. Il y a une chose notamment qui est assez frappante, en tout cas dans ce que j'en sais, c'est que, mis à part quelques essais, l'idée de faire un robot qui soit pas seulement humanoïde, mais qui soit un androïde réellement, qui ait une apparence humaine, une peau humaine, effectivement, et pour l'instant, je n'ai vu que réellement des projets japonais. Alors, dans ce cas, je passe sous silence quelques projets de fous que je trouve géniaux, comme l'androïde de Philippe K. Dick, par exemple. Hein, que vous pouvez, si vous l'avez jamais vu en action, hein, on a des images sur Internet.
Il a été volé, d'ailleurs.
C'est vrai, il a été volé.
La tête d'androïde de Philippe K. Dick est disparue, elle a été volée. Oui, lors d'un déplacement entre deux endroits d'exposition, elle a disparu, on ne sait pas où elle est.
C'était pas moi.
Ça aurait pu, mais c'était pas moi. Et donc je me demande, donc forcément, quand on travaille sur, quand on est roboticien, qu'on travaille ici, comment on se positionne face à l'industrie japonaise, et est-ce qu'il existe encore l'écart qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, quand on voyait, moi personnellement, quand j'ai vu les premières images d'un robot bipède capable de marcher, j'avais l'impression qu'on était à des années-lumière, et en fait je vois que c'est absolument pas le cas et qu'on n'a pas forcément à rougir. Donc où on en est par rapport à eux? Est-ce qu'ils constituent une forme de modèle? Est-ce qu'ils sont moteurs sur cette industrie? Et est-ce que nos modèles actuels de robotique et les plans de développement reprennent les mêmes lignes ou sont différents?
Alors, il y a plein de choses. Donc les Japonais sont en effet très en avance avec Asimo. Enfin, pour moi, la référence, le robot japonais intéressant, c'est Asimo, parce que c'est le robot humanoïde parfait qui fait plein de choses. Ils sont très loin devant. Il n'y a pas beaucoup de robots dans le monde qui soient humanoïdes, qui soient à la hauteur. Après, il y a des choses qu'il ne fait pas très bien, il n'est pas très dynamique, il ne court pas. Là, il y a des projets américains qui sont très bien, genre Petman. Donc la recherche avance, mais c'est vrai que sur le robot humanoïde, et maintenant en plus Asimo a fait des gros progrès en interaction machine, dans les dernières démos on le voit parler avec des gens, donc il est en effet très en avance. Il se trouve que les Japonais, par leur goût historique pour ça, ont choisi le robot comme vitrine technologique. Honda, Toyota, Kawada, donc des entreprises qui ne sont pas forcément dans la robotique, ont décidé de faire du robot leur vitrine technologique parce que culturellement c'était bien vu. Dans d'autres pays, ça ne s'est pas fait, ce qui fait qu'on n'est pas autant en avance d'un point de vue « je vais vous montrer ce que je sais faire ». En revanche, en termes de science pure, les Japonais viennent chercher en France, en Europe, partout, de l'expertise. Ils ont une très bonne compétence dans la conception mécatronique. En revanche, ils font des labos communs avec des Anglais, des Américains, des Allemands, des Français pour aller plus loin dans la partie commande, dans la partie intelligence. En termes d'industrie, des robots humanoïdes vendus, celui qui a vendu le plus de robots humanoïdes, c'est un Français qui s'appelle Aldébaran Robotics. Alors, c'est pas la même chose que Asimo, mais à notre échelle, on sait plus de choses sur comment faire des robots humanoïdes en série que n'importe qui au Japon. Donc voilà, ça dépend sur quel plan on se compare. En termes de performance absolue, Asimo est mieux. En termes de dissémination de la robotique humanoïde, c'est les Français qui sont en avance sur tous les autres. Voilà, donc les Japonais sont en effet très en avance, mais je pense qu'ils ne cherchent pas encore vraiment à diffuser du robot humanoïde à tout le monde. Et c'est le choix qu'a fait Aldébaran, qui est peut-être un peu, on espère, audacieux, peut-être un peu trop en avance sur son temps.
Robot sapiens, c'est Aldébaran.
Robot sapiens, ce n'est pas Aldébaran, mais ce n'est pas vraiment un robot.
Voilà.
Donc c'est une bonne question aussi. Robot sapiens, il s'en est vendu plus que de Nao, c'est vrai, mais il n'a pas cette capacité, cette intelligence embarquée, le nombre de capteurs qui font qu'on peut vraiment dire que c'est un robot. Alors, c'est vrai que là, on peut chipoter là-dessus. Mais les chercheurs trouvent leur compte avec Nao, il y a peu de chercheurs qui utilisent Robo Sapiens sur la durée. Donc voilà, pour nous c'est une aune un peu subjective. Après voilà, c'est la puissance de calcul, les nombres de capteurs, comment on peut traiter, en embarquer les capteurs, c'est ça qui fait que Nao est plus qu'un jouet comme le Robo Sapiens. Et puis pour revenir sur Ishiguro là, et ce robot qui ressemble à s'y méprendre à une personne, c'est très intéressant, mais je dirais un peu comme Asimov, pour moi c'est pas de la robotique. Les questions que se pose Ishiguro, et je pense aussi comme les questions que se pose Asimov avec les trois de la robotique, ne sont pas des questions robotiques. C'est des questions anthropologiques. Qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'il y a un homme en face de nous? Qu'est-ce qui fait l'humanité de quelque chose? Et beaucoup de gens ont travaillé là-dessus sur la robotique humanoïde. C'est on va essayer de comprendre comment marche l'homme et on va faire un robot. Si nos idées sur la façon dont marche l'homme, par exemple, qui marche, sont vraies, si je fais marcher un robot comme je pense que marche l'homme, il va marcher comme l'homme. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, le modèle de la marche de l'homme est plus compliqué que ce que je réussis à modéliser. Et donc, pour beaucoup, et pour Asimov, bon, moi j'ai lu beaucoup d'Asimov, et en y pensant, moi ça ne m'apprend pas grand-chose pour faire des robots, ça m'apprend des choses sur l'homme, ça m'apprend sur est-ce qu'on est vraiment régi par des lois? Est-ce que si l'homme suivait des lois aussi simples que les trois de la robotique, est-ce que la société fonctionnerait? Non. D'une part, l'homme ne suit pas les lois, parce qu'il a envie de faire autre chose, mais ce que démontre Asimov, c'est que même s'il les suivait, il n'y aurait jamais assez de lois pour faire un monde qui va bien. Et c'est surtout ça que ça démontre pour moi. Après, que les robots aient besoin de ces lois-là, oui, c'est vrai, il ne faut pas que nos robots fassent du mal, il faut qu'ils ne se cassent pas, c'est vrai. Mais je trouve que ce n'est pas ça qui est le plus intéressant dans Asimov. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de votre question.
La vraie question du robot dans la science-fiction, pour moi, c'est la question de l'intelligence. C'est vraiment ça qui est au centre, pas tellement le... Ouais, alors au-delà de l'intelligence, il y a la conscience, mais déjà on arrive à la conscience, c'est l'intelligence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est capable de faire de plus qu'un animal, de moins qu'un homme, et où on passe de, entre guillemets, un robot qui saute des plumeaux dans des voitures à un robot qui est capable de faire une réponse à une question, une réponse surprenante, entre guillemets pas logique ou logique, ou un robot qui est lourd. C'est vrai que l'humour, c'est voilà, le jour où les machines commenceront à avoir de l'humour, le jour où le PC commencera à avoir de l'humour, on pourra être un peu inquiet ou pas, mais...
Le mien a de l'humour, mais il rigole en bleu.
Bon, deuxième degré. Non, en fait, c'est juste que je me demande si la SF n'a pas trop influencé la science, justement, en imposant peut-être des modèles de représentation peut-être trop humanoïdes. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un meilleur mode de locomotion que la bipédie, par exemple, humaine, et une forme humanoïde pour un robot, par exemple? Est-ce que finalement, c'est pas... est-ce que c'est nécessaire, peut-être au niveau marketing, sûrement, mais est-ce que c'est nécessaire est-ce que finalement, la possibilité de créer un autre mécanique, enfin, un objet mécanique doué de animé, quoi, moi, c'est marrant, j'imaginais que la robotique pourrait présenter un éventail de formes et de caractéristiques différentes, plutôt qu'essayer de se rapprocher de mimer l'humain. Alors, effectivement, c'est peut-être ça serait pas un marché. Mais, par contre, quand on parlait des poils à frire, moi qui suis pas du tout gadget, et j'ai bien compris le côté consumérisme de ces trucs-là, j'ai été un des premiers à craquer, et donc je m'en suis acheté un parce que je me dis que c'est la première fois qu'on avait un vrai robot animé, même s'il est un peu ridicule comme ça, à ramper comme une sorte de trilobit mécanique. Mais n'empêche, c'est la première fois qu'une prévision SF se réalise. Enfin, c'est pas la première fois, mais en tout cas, c'est un truc qui s'est passé avec ces collaborations. Et donc, je m'en suis acheté. Je me suis rendu compte que ça me faisait gagner 10 minutes d'aspirateur et que j'en perdais 15 pour le nettoyer après. Donc, ça.
C'est un Roomba.
Roomba silencieux. Pas trop insupportable du coup. Voilà,
la question de la forme humanoïde, c'est une très bonne question. Il y a en effet beaucoup de marketing dans le choix de la forme humanoïde, en tout cas chez Aldébaran. Une question d'acceptabilité, il y a une question de... Bon, après, c'est ce que tu disais. On se dit que pour être dans notre environnement, quand même, qui est conçu pour l'homme, il y a des escaliers, il y a des placards en hauteur. Et quand on demande à un ingénieur from scratch de dire « conçois-moi le robot pour répondre à tout ça », alors soit par paresse il refait un humanoïde, soit il va concevoir un truc avec des chenilles, un truc avec une colonne vertébrale qui se déplie, des pinces, et ça va faire un objet qui va être assez effrayant quand même. Il va être très fonctionnel.
C'est assez des éléphants.
Voilà. Et donc, moi je cite souvent ça parce que j'ai travaillé longtemps au CEA, et donc quand au CEA on nous donnait un problème qui est il faut passer des escaliers, il faut ouvrir une porte de placard à 2 mètres du sol, et ben on fabrique un objet qui fait ça mais qui est assez effrayant. Et donc, c'est vrai que c'est une solution un peu de facilité de dire, on va faire un truc qui est humanoïde, on sait que comme nous on passe partout, lui sans doute il passera partout, c'est des complexités épouvantables, mettre deux jambes à un robot, il n'y a rien de plus idiot, enfin voilà, ça ouvre certaines facilités, mais ça apporte beaucoup, beaucoup de difficultés aussi. Donc vous avez tout à fait raison. Après, créer une nouvelle forme qui soit à la fois plaisante, efficace, voilà, le champ est beaucoup trop libre, et alors... Bon, donc peut-être quelqu'un aura une idée.
Wally. Mais en tout cas...
Wally.
Alors, oui, alors Wally...
Non, mais où les mechas... je sais qu'il y a une grande variété de formes de mechas. Et d'ailleurs, je trouve que la forme Robbie canonique du robot américain a disparu dans les jeunes générations. Et je pense que la vision du robot dominante aujourd'hui, même ici, je pense, même dans le monde occidental, c'est le mecha japonais, qui c'est vraiment d'abord parce qu'ils sont en général très très beaux. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a, qui a, qui a donné la forme moderne, enfin, le canon moderne du robot.
Le mec japonais, c'est quoi? C'est l'exosquelette
Oui, avec le. Oui,
genre pattes d'abord, les
genre, voilà, enfin, les pattes d'abord et toutes les déclinaisons de ça, buis qui sont.
C'est un côté un peu guerrier. Enfin, c'est un côté.
Ouais, mais il y a une version dans Ghost in the Shell, la série, où il y a plein de robots différents qui sont un peu inspirés de ça et qui sont plus pacifiques.
Et pour reparler de Wally, Wally, quand on regarde bien, il est sympathique, il est fonctionnel, il n'est pas humanoïde, mais il est sympathique. Mais ce qui le rend sympathique, c'est qu'il est extrêmement articulé. En fait, il a l'air, on a l'impression que c'est deux chenilles. Et en fait, quand on regarde un peu précisément, il y a 350 moteurs. Si on voulait vraiment faire un Wally qui bouge comme il bouge dans le film, il faudrait 350 articulations. Et c'est énorme. Alors que moi, sur Nao, j'en ai 25. Donc, Wally, c'est un peu hypocrite, parce que ça nous fait croire qu'un robot qui est pas du tout humanoïde peut avoir des expressions humanoïdes, mais en fait il y a un peu de tricherie derrière ça. Donc pour avoir un contact, pour essayer de communiquer par le langage corporel, par exemple aller au-delà simplement du verbe, la forme humanoïde est aussi bien pratique.
Par contre, juste pour revenir sur Wally, Wally est un remake, enfin c'est un remake déguisé, c'est un hommage à un film de 1986 de John Badham qui s'appelle Short Circuit. Et les robots de Short Circuit étaient des animatroniques.
Pour la tête.
Pour la tête et la forme, l'idée des. Voilà, une partie de la forme générale. Et ce qu'ils ont repris, bon, il y a un génie de l'animation chez Pixar qui est juste incroyable sur l'expressivité du robot. Mais dans le film de 86, on a un animatronique. Ils avaient déjà cette solution, en fait, des doubles paupières plates, qui faisaient sourcils ou paupières, pour donner une expressivité au robot. Et je pensais à une chose, j'ai quand même vu moi une application, et c'est une application japonaise, de tête synthétique. Et en fait c'était pour servir d'interface dans des centrales nucléaires. Ça avait été proposé en fait pour, comme solution pour éviter qu'un Tchernobyl arrive de nouveau, où ils étaient partis du constat que la catastrophe était liée à une série d'erreurs humaines amplifiées par une forme de panique, liée à une interface uniquement en ampoule. En gros, dans Tchernobyl, ils étaient face à un ordinateur type 2001, avec juste des choses qui clignotaient, et que ce fait-là pouvait amplifier des erreurs et empêcher un ingénieur de réagir comme il fallait. Et l'idée était de mettre une tête humaine qui avait un effet pour calmer la personne en face et pour lui parler et lui dire « Il n'y a pas de problème, tu as ton temps. »
Tout va bien, Dave.
À Fukushima, ça a super bien marché. Tu vas enfoncer tes barres de bord, calmement. Appuie sur moi. Je regarde l'heure et je me rends compte qu'il nous reste à peine une petite dizaine de minutes. Donc avant que vous ayez quelque chose, alors évidemment on a à peine esquissé la chose, on n'a notamment pas parlé
mais
on n'a pas parlé des androïdes, on n'a pas évoqué Philippe K. Dick. En même temps, étant moi-même un fou de Philippe K. Dick, j'évite d'en parler, sinon j'ai l'impression de toujours parler de la même chose. Mais j'ai envie de dire quand même, juste pour en dire un mot, que Philippe K. Dick s'intéresse vraiment très peu à la robotique. Ce qui l'intéresse, on est directement dans la conception de l'humain et du rapport qu'il peut y avoir entre sa propre nature et l'humanité. Et ce qui l'intéresse, effectivement, c'est avant tout les questions philosophiques. Et qu'en plus, chez Dick, il y a cette idée géniale qui est que moins son personnage a l'air d'être un robot, meilleur est son effet quand c'est un robot qui s'ignore. Choses qui ont été évoquées, vous avez peut-être envie d'en parler.
C'est sûr que voilà le problème de la robotique. Quand on écrit une science-fiction, on ne paye pas les effets spéciaux, on ne paye pas les modes d'engrenage et tout. Donc nous, on saute à l'intelligence, puis après on saute à la conscience, puis après on saute au danger, à la domination, à l'extermination des humains. On déduit tout le truc, nous ça ne coûte rien. On n'a pas un budget, on n'a pas besoin que le robot aille ici ou ailleurs, juste on écrit. Donc dès qu'on réfléchit en termes d'intelligence artificielle de robot, eh ben, ça va, chez nous ça va très vite. Et ben, on ne se pose pas les problèmes que vous posez.
C'est pas moi qui me les pose, je les ai. Quoi. Voilà. Et c'est là où justement le combat est un peu inégal. C'est que vous allez. Bon, ça n'a rien de personnel, hein, mais voilà, vous allez dérouler des trucs qui peuvent faire très peur aux gens, alors que nous, on sait que techniquement, il n'y a pas de raison que ça arrive.
Quoi. Oui, mais la fonction de la science-fiction, depuis toujours, ça a toujours été. Entre guillemets, pas faire peur, mais de dire voilà, la voiture est créée, nous, il faut qu'on pense aux embouteillages. Donc, quand on pense robotique, on ne pense pas sur la rotule, ou quel problème de faire une rotule ou une hanche, etc. On se dit, mais bon, quand ils vont devenir conscients, quand ils vont devenir intelligents, qu'est-ce qui va se passer ?
Voilà, c'est là où. Enfin, moi, j'aime beaucoup la science-fiction, hein, donc je ne vous empêche pas de. Au contraire, continuer. Mais voilà, il faut que vous soyez conscients. c'est le cas de le dire, que quand vous dites quand ils vont devenir conscients, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis, ils deviendront jamais conscients. Voilà, alors ça, mais c'est voilà, c'est tout, c'est juste, vous prenez un postulat qui, à mon avis, est pas réaliste, mais on n'est pas là pour être réaliste quand on fait des films de science-fiction, enfin, des livres de science-fiction.
Là, on fait pas de la prospective,
voilà.
On essaie de trouver des situations dramatiques sur lesquelles se valent des thèmes, et...
Ouais, c'est pour ça que ce qui m'intéresse, voilà, que c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, votre réflexion, elle est intéressante sur l'homme, la société, son fonctionnement, plus que la science-fiction va servir à faire des garde-fous et à balancer du principe de précaution dans la tête, dans les pattes des roboticiens. Voilà, c'est, faut oui, bien qu'on s'entende là-dessus.
C'est rigolo parce qu'on est, justement, vous avez été un peu victime de la perfection de certaines œuvres qui ont induit à penser, par exemple, après 2001, cet espace, beaucoup de chercheurs étaient convaincus que dans les années 80, ça y est, il y aurait des IA conscientes. Et on prévoyait déjà, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont engouffrés dans ce film-là. Comme pour, dans le domaine de la biologie, il y a eu un engouement pour la génétique qui a donné quasiment rien en termes d'application pratique. Mais dans l'IA, la SF avait promu un type d'imaginaire à base d'ADN, il n'y avait pas un bouquin sans ADN dedans, et ça
disait... Par contre, on n'avait pas vu venir Internet.
Non. Oh, il y en a quelques-uns, mais ça a pas si, été forcément le reste, mais oui, il y en a quand même.
John Ford, déjà parlé d'Internet dans les années 80.
Et c'est marrant de voir l'IA, justement, ce qui a donné les apôtres de la singularité technologique, et un enfant de 2000 hein, d'ailleurs. Et c'est marrant de voir comment c'est repoussé de 5 ans, et ce qui est une preuve indirecte qu'on n'y croit plus vraiment, de toute façon. Ceux qui font la hard science réellement. Mais cela dit, il y a quand même. Moi, je trouve qu'il y a un bouquin assez fondamental sur. Cette limite entre l'humain et la machine, qui est le problème de Turing, de Harrison et Marvin Minsky, qui pose très très bien les jalons entre qu'est-ce qu'être humain et qu'est-ce qu'être machine et qu'est-ce qu'être entre les deux.
Oui, et au-delà des limites, il y a quand même le film Télescope, Blade Runner, c'est vraiment
super. Oui, tout à fait.
Ah oui, d'accord. Donc juste pour dire, effectivement, on a exploré donc ce motif du robot et de l'androïde. Comme on l'a vu, il va être utilisé de manière extrêmement diverse, hein, ou comme objet même d'une fascination technique dans une conception d'Alagernsback, ou dans ses applications pour la société, dans une projection, ses différentes fonctions, ou comme support aussi de réflexion philosophique, ou plus sur la nature de l'humanité. Mais avant, il nous reste 5 minutes pour prendre des questions dans la salle. On aura donc des réponses courtes.
Bonjour, un grand merci pour ce débat vraiment passionnant. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, tout à fait.
J'aurais 100 questions à vous poser, mais si vous en avez une, ce serait, que pensez-vous de la méfiance dans la société sociale vis-à-vis des robots, et plus précisément du racisme, qu'on retrouve dans beaucoup de livres et dans beaucoup de récits?
Le racisme anti-robot?
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai l'impression qu'on a dépassé ça.
Hein. J'appellerais pas ça du racisme. Mais la méfiance, c'est normal. La science-fiction, c'est toujours une extrapolation. Et comme c'est de la littérature et comme il faut accrocher le lecteur, on va plutôt chercher les trucs qui font peur, quoi, les trucs qui rassurent. Mais c'est un miroir aussi de nos peurs. Ça touche cette littérature-là. Quand vous regardez la science-fiction des années 50, au cinéma ou en littérature, on avait peur du nucléaire. Bon, bah là, maintenant, on a peur d'Internet.
Du nucléaire aussi.
Et aussi du nucléaire.
Vous avez parlé des robots japonais notamment, et donc il y a aussi des exosquelettes plus des robots télécommandés, on va dire, et aussi des robots qui font peur. Mais j'ai l'impression que surtout au Japon, c'est deux choses différentes. Le robot qui va être indépendant, qui va être plus intelligent que l'homme, qui va surpasser l'humanité. J'ai l'impression que c'est plus un problème européen ou occidental, mais pas japonais. Que les Japonais, le robot,
n'est pas indépendant.
Ça dépend. Regardez Ghost in Machine, c'est quand même un petit peu le moteur qui est au centre de toute la licence. Donc ils ont aussi ces questions-là, les Japonais, sur l'intelligence des robots. Mais c'est vrai que c'est bien avant Avatar et bien avant James Cameron, c'est les premiers à avoir fait des robots entre guillemets dans lesquels les gens rentraient. Des espèces de robots de combat ou des robots de travail, on n'en voyait pas trop avant, je crois.
Non. Il y avait Iron Man quand même avant. Enfin, c'était avant.
C'est une combinaison, c'est pas un robot.
C'est un exosquelette. Enfin, pour moi, entre Goldorak et Iron Man, il n'y a pas de différence. Il y a un bonhomme à l'intérieur d'un robot.
Mais c'est vrai que du mecha, enfin, là où je vois la différence, c'est effectivement, la personne qui rentre dans le mecha, c'est déjà The Ghost in the Machine. Il y a déjà une âme dans le robot. Et quand ils vont pousser ça, et notamment c'est Mamoru Oshii, qui est quand même le créateur des robots les plus sexy de la planète, ils vont pousser ça vers le philosophique, effectivement, avec qu'est-ce qui reste comme part d'humanité. Mais je suis assez d'accord que chez les Japonais, du fait notamment du Shinto, de l'animisme japonais, et du peu d'importance de la nature physique pour le fait d'avoir une âme, on a effectivement un dépassement de cette question-là. Les questions qui se posent, un cerveau n'est pas forcément moins humain s'il est artificiel.
La technosphère, quand elle est traitée par le Japon, mais ou même par une partie du cyberpunk, je trouve, elle est traitée comme une nature de substitution. Donc, traiter de l'homme par rapport au robot, c'est comme traiter de l'homme par rapport à autrui, d'une manière générale. Donc, c'est effectivement, il y a un côté effectivement animiste, mais il y a un côté tout simplement réaliste. C'est qu'on ne vit plus dans la nature et qu'on interagit avec des objets manufacturés comme nos ancêtres. Interagissait avec la nature, c'est-à-dire des choses concrètes qui ne comprenaient pas forcément, et c'est le cas de la technologie actuelle, on ne comprend plus comment ça marche, c'est devenu tellement complexe qu'on ne peut plus avoir de vision globale de comment ça marche à l'intérieur, on est obligé de faire confiance aux techniciens qui les ont programmés ou qui les ont fabriqués, mais on a un rapport qui devient instinctif. Parce qu'on ne comprend plus justement, on n'est plus dans la rationalité simple, c'est plus des casseroles, quoi. C'est des êtres animés qui ont peut-être des intentions, justement, donc, voilà. Qui ne sont pas forcément leurs intentions, mais les intentions de ceux qui les ont programmés, ne serait-ce que pour les faire tomber en panne 5 ans plus tard, pour s'en racheter un autre. Donc voilà, c'est la vision aussi, les problèmes qu'on a avec les robots dans la SF, c'est aussi des problèmes qu'on a avec n'importe quel objet. Manufacturé dont on n'a pas le contrôle. Parce que la société ne nous laisse plus le contrôle de ça.
Et c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à cette idée, j'imagine, du robot comme interface ultime.
Ultime, interface au.
C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui par ici passe un moment dans sa journée, au moins un petit moment dans sa journée, à se battre avec une interface qui est censée être intuitive, et à mesure qu'on remplit, qu'on anime notre monde, qu'on le rend de plus en plus technologique, on peut effectivement imaginer qu'une des questions, comme je dis, ultime, ce serait d'avoir un interlocuteur auquel on peut s'identifier, qui nous explique comment ça marche et qui nous sert de module de contrôle.
Absolument, ouais, nous, dans nos prospectifs, mais vraiment à court terme, NAO peut servir à ça. C'est l'interface vers tout le monde de la domotique, du numérique, qui, pour certaines personnes, notamment âgées, devient une espèce de barrière infranchissable. En parlant à NAO, NAO, il sait parler à toutes les machines. Un peu comme le fait R2D2, qui est l'interface vers toutes les machines, il peut parler à toutes les machines.
Donc c'est vraiment une manière de refamiliariser la technologie.
Merci. En fait, je voulais savoir s'il n'y avait pas de questions politiques. Je pense notamment aux Spatiens qui sont chez Asimov, je crois que ce sont les Solariens, qui disent qu'il est complètement isolé avec leurs robots, mais qui sont très déconnectés les êtres humains les uns des autres. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une question politique et sociale derrière de dire qu'est-ce qu'il faut faire ou vers quoi on tend ?
Je crois que ça appelle carrément un débat en soi, donc c'est difficile de trancher ça. Oui, clairement, il y a ce rapport-là. Je pense qu'il y a eu une bascule entre des thématiques qui restaient simples et qui restaient duel, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté l'homme et la nature, et de l'autre côté la machine et l'artificiel, l'être artificiel. Depuis les années 80, ça s'est brouillé, et je pense que qu'on ne peut plus réfléchir de façon complètement binaire comme ça. Je pense qu'on est obligé d'intégrer le robot dans un environnement technologique global à base d'informations et le robot peut passer sous la peau. Il peut s'incarner dans un objet, le robot, et il peut aussi s'incarner dans des prolongements synthétiques, autres, mais au final on aura un être humain augmenté ou diminué, hein, selon les besoins de la société. Donc je pense qu'on peut... Asimov, c'est un état de société qui n'existe peut-être plus complètement aujourd'hui.
Même si il faut le lire. Hein, parce que...
Eh bien, il se trouve que mon organe artificiel partagé me dit qu'il est temps d'en finir. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Je tiens juste à faire remarquer que l'automate de Nuremberg, qui est un texte qui est cité tout à l'heure, est mon préféré de l'auteur qui est là-bas sur la gauche, et que c'est une merveille. Donc, n'hésitez pas. Il doit y avoir forcément des exemplaires qui traînent, sans vous limiter à ça, hein. Ils sont tous intéressants. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Il y a statistiquement au moins 2 personnes parmi vous qui sont des êtres synthétiques. Ce sera votre but pour le reste du séjour ici de les trouver. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Bien ce robot.